Rome définit la vision. Numéro 2.
Identification de la Rome moderne et de la vision prophétique des derniers jours.
Étant ces temps-là, beaucoup se lèveront contre le roi du Midi. Aussi les brigands de ton peuple s'élèveront pour établir la vision, mais ils tomberont. Daniel 11, 14.
L'identification correcte de la puissance des derniers jours représentée comme Rome moderne, et donc de la puissance qui établit la vision, est essentielle et salvatrice. Elle représente un élément du processus final d'épreuve des 144 000. Le mot « vision » dans le verset est le même mot hébreu que Salomon a choisi lorsqu'il a identifié la raison pour laquelle le peuple de Dieu périt.
Faute de vision, le peuple périt. Mais heureux celui qui garde la loi. Proverbe 29, 18.
Tous les prophètes parlent plus directement des derniers jours que de toute autre période de l'histoire sacrée. Et l'avertissement de Salomon au sujet de la nécessité de posséder la vision est une question de vie ou de mort. La vérité divise toujours et produit deux catégories d'adorateurs. Dans le verset, il y a une catégorie qui périt et une catégorie qui observe la loi avec joie. Il convient toutefois de noter que le conseil de Salomon est placé dans le contexte d'une controverse sur la vérité. Cela s'inscrit aussi dans le contexte de la parabole des dix vierges, car la parabole des dix vierges est une illustration principale de l'expérience du peuple de Dieu dans les derniers jours.
L'insensé met à nu toute sa pensée, mais le sage la retient jusqu'à plus tard. Si un chef prête l'oreille au mensonge, tous ses serviteurs sont méchants. Le pauvre et l'homme trompeur se rencontrent. Le Seigneur éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Le roi qui juge fidèlement le pauvre voit son trône affermi pour toujours. La verge et la réprimande donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, la transgression augmente, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils et il te donnera du repos. Oui, il fera la joie de ton âme. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais heureux celui qui garde la loi. Proverbe 29, Évi 11, 18.
Je n'ai pas l'intention de pointer du doigt ceux qui pourraient avoir une compréhension de la Rome moderne différente de la mienne. Mon intention est de montrer que Salomon s'adresse à deux catégories d'adorateurs, qu'il identifie comme un sage et un insensé. L'insensé est également identifié comme le méchant. Les vierges sages et folles de la parabole sont aussi identifiées, dans la ligne prophétique du chapitre 12 de Daniel, comme les sages et les méchants.
Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Daniel 12, 10.
Salomon et Daniel s'accordent, car l'ensemble du témoignage prophétique converge dans les derniers jours. Les sages comprennent l'accroissement de la connaissance.
Et les sages resplendiront comme l'éclat du firmament, et ceux qui auront amené beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Mais toi, ô Daniel, tiens ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup iront ça et là, et la connaissance augmentera. Daniel 2, 3, 4.
Le verset 10 identifie le processus d'épreuve en trois étapes qui passent les vierges au crible, appelées à être au nombre des 144 000. Dans les deux cas, le processus de tri et d'épreuve repose sur le fait qu'elles comprennent ou non l'accroissement de la connaissance, la vision, qui a été dévoilée au temps de la fin, en 1989. Le temps de la fin des derniers sonnants est correspondé à 1989, lorsque les versets 40 à 45 de Daniel 11 ont été dévoilés. Il fut alors établi que le sujet de ces versets était l'ascension et la chute finale du roi du Nord. Il fut alors établi que le roi du Nord, dans ces versets, est la puissance papale des derniers jours. L'inspiration n'emploie jamais l'expression « Rome moderne ». Cette expression a été inventée par moi pour désigner la puissance papale des derniers jours, car prophétiquement, moderne représente les derniers jours. Ellen White n'a jamais utilisé l'expression « Rome moderne ». Il existe des interprétations erronées quant à l'identité du roi du Nord dans les six derniers versets de Daniel 11, mais une seule compréhension est correcte. La compréhension selon laquelle le roi du Nord dans ces versets représente la puissance papale a été tirée de nombreux témoins prophétiques. Le verset 40 commence par identifier la papauté recevant une blessure mortelle en 1798, puis les versets 41 à 43 décrivent les mécanismes impliqués dans la guérison de cette blessure mortelle. Le verset 44 décrit le message qui met la papauté en fureur et mène au verset 45 lorsque la puissance papale prend fin de manière définitive et complète. La vision qui a été décelée en 1989 est la vision de la montée et de la chute finale de la puissance papale dans les derniers jours. cette vision constitue l'accroissement de la connaissance qui produit et manifeste deux classes d'adorateurs, selon leur acceptation ou leur rejet de la connaissance contenue dans ces versets.
Selon ce même chapitre où l'accroissement de la connaissance a été décelé en 1989, les pillards de ton peuple, qui s'exaltent et finissent par tomber, constituent le symbole qui établit la vision. Dans le tri final, la première question de mise à l'épreuve est de savoir qui est représenté par les pillards de ton peuple, car ils sont le symbole prophétique qui établit la vision. Les pillards sont-ils la puissance papale ou les États-Unis?
Les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont un seul et même livre et représentent deux témoins de la même ligne prophétique. Daniel est le commencement et l'Apocalypse est la fin. Et ensemble, ils représentent deux témoins de la vérité, dont le sceau est levé au temps de la fin en 1989.
Daniel décrit le processus de purification qui s'est produit lorsque le lion de la tribu de Juda a décelé les versets 40 à 45 en 1989. À ce moment-là, un processus de mise à l'épreuve a commencé afin de déterminer et de manifester qui seraient les prêtres qui constituent le peuple de l'Alliance, c'est-à-dire les 144 000 des derniers jours. Osée ajoute que ceux qui rejettent l'accroissement de la connaissance des derniers jours ne feront pas partie des prêtres qui composent les 144 000.
Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, afin que tu ne sois plus prêtre pour moi. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4:6.
Le livre de l'Apocalypse indique que la connaissance qui est dévoilée et rejetée par un groupe entraîne leur rejet juste avant la clôture de l'approbation.
Et il me dit, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Apocalypse 22, 10, 11.
L'histoire des millérites illustre l'histoire des 144 000, et, ensemble, les millérites et les 144 000 représentent le début et la fin du message et de l'œuvre des trois anges de l'Apocalypse, chapitre 14. Les histoires parallèles identifient les événements liés à la clôture du temps de grâce. L'œuvre des deux histoires a été préfigurée par Élie et Jean-Baptiste.
En tremblant, William Miller commença à dévoiler au peuple les mystères du royaume de Dieu, conduisant ses auditeurs à travers les prophéties jusqu'au second avènement du Christ. À chaque effort, il prenait des forces. Comme Jean-Baptiste annonça le premier événement de Jésus et prépara la voie à sa venue, de même William Miller et ceux qui se joignirent à lui proclamèrent le second événement du Fils de Dieu. Premier écrit, d'Aucassin 239, 231.
Le message des Millerites a identifié les événements liés à la fin du temps de grâce, tels que représentés à la fois par Élie et par Jean-Baptiste.
Il était nécessaire que les hommes fussent éveillés au sentiment de leur danger, qu'ils fussent réveillés afin de se préparer aux événements solennels liés à la clôture du temps de grâce. The Great Controversy, 310.
En 1909, avec l'effondrement de l'Union soviétique, la partie du livre de Daniel qui concernait les derniers jours a été dévoilée et un processus d'épreuve a commencé. L'épreuve reposait sur la capacité ou l'incapacité du peuple de Dieu à comprendre ou à rejeter l'accroissement de la connaissance qui est représentée dans les six derniers versets du chapitre 11 de Daniel. Des versets qui mènent au premier verset du chapitre 12, lequel identifie la clôture du temps de grâce. Le message des événements liés à la clôture du temps de grâce a alors été dévoilé, et l'œuvre de ceux qui étaient candidats pour devenir les prêtres des 144 000 a commencé. Leur œuvre consistait à comprendre et à proclamer le message représenté dans le passage. Le message et l'œuvre des 144 000 consistaient à présenter le message dévoilé afin de réveiller les hommes pour se préparer aux événements solennels liés à la clôture du temps de grâce.
Aujourd'hui, dans l'esprit et la puissance d'Élie et de Jean-Baptiste, des messagers désignés par Dieu attirent l'attention d'un monde voué au jugement sur les événements solennels qui vont bientôt se produire en lien avec les dernières heures du temps de grâce et l'apparition de Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Bientôt, chacun sera jugé pour les actes accomplis dans le corps. L'heure du jugement de Dieu est venue et il incombe aux membres de son Église sur la terre solennelle responsabilité d'avertir ceux qui se tiennent, pour ainsi dire, au bord même de la ruine éternelle. À tout être humain, dans le vaste monde, qui voudra prêter attention, il faut rendre clairs les principes en jeu dans la grande controverse qui se livre, des principes dont dépendent les destinées de toute l'humanité. Prophètes et Rois, 715-716.
l'histoire de Jean-Baptiste et du Christ, ainsi que l'histoire des Millerites, illustrent le message et l'œuvre des 144 000. Jean-Baptiste et le Christ comprenaient tous deux leur message comme représentant la clôture du temps de probation.
Mais, voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Ô race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir ?» Matthieu 3:7.
Le Christ a représenté la destruction de Jérusalem, la même destruction au sujet de laquelle Jean avait averti les Juifs ergoteurs qu'elle approchait. Jésus a employé cette destruction comme symbole de la colère, qui commence lorsqu'il, en tant que Michel, se lève dans Daniel chapitre 12, verset 1.
Christ voyait en Jérusalem un symbole du monde endurci dans l'incrédulité et la rébellion, et se hâtant à la rencontre des jugements rétributifs de Dieu. Les malheurs d'une race déchue, pesant sur son âme, arrachèrent à ses lèvres ce cri d'une amertume extrême. Il voyait la trace du péché inscrite dans la misère humaine, les larmes et le sang. Son cœur était ému d'une pitié infinie pour les affligés et les souffrants de la terre. Il aspirait à les soulager tous. Mais même sa main ne pouvait refouler le flot des malheurs humains. Peu chercheraient leur seule source de secours. Il était prêt à livrer son âme à la mort pour mettre le salut à leur portée. Mais peu viendraient à lui pour avoir la vie. La majesté du ciel en larmes, le Fils du Dieu infini, bouleversé dans son esprit, courbé sous l'angoisse. Cette scène remplit tout le ciel d'étonnement. Cette scène nous révèle l'extrême gravité du péché. Elle montre combien il est difficile, même pour la puissance infinie, de sauver les coupables des conséquences de la transgression de la loi de Dieu. Jésus, tournant son regard vers la dernière génération, vit le monde pris dans une tromperie semblable à celle qui entraîna la destruction de Jérusalem. Le grand péché des Juifs fut le rejet du Christ. Le grand péché du monde chrétien serait son rejet de la loi de Dieu, le fondement de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Les préceptes de Jéhovah seraient méprisés et réduits à néant. Des millions, asservis au péché, esclaves de Satan, voués à subir la seconde mort, refuseraient d'écouter les paroles de vérité au jour de leur visitation. Terrible aveuglement, étrange égarement. La grande controverse, 22.
Le message d'avertissement proclamé par Jean-Baptiste et aussi par le Christ était le même message d'avertissement. De même que le message d'avertissement des Millérites était ce même message, identifiant les événements liés à la clôture du temps de probation, que proclameront les Saintes en fauve. Trois témoins, Jean-Baptiste, le Christ et les Millérites, témoignent que l'œuvre et le message des 140 en fauve constituent une mise à l'épreuve de vie ou de mort réalisée par l'accroissement de la connaissance qui a été décelée en 1989. Le message décelé à ce moment-là est la vision du dernier jour qui doit être comprise par les sages pour être les prêtres qui forment les 140 enfants fauves. Si ces candidats ne comprennent pas cette vision, ils sont identifiés comme méchants ou comme insensés, et ils périssent. Eux et leurs enfants sont rejetés, conformément à leur rejet de la vision qui est l'accroissement de la connaissance. La parole de Dieu identifie Rome comme la puissance qui s'exalte, dépouille le peuple de Dieu, puis tombe et accomplit la vision. La question de savoir si la Rome moderne est la puissance papale ou les États-Unis constitue l'épreuve qui permet d'identifier les candidats comme étant soit des vierges sages, soit des vierges folles. Cette épreuve est une épreuve prophétique tirée du livre de Daniel, ensuite confirmée et portée à la perfection dans le livre de l'Apocalypse. Le sujet de la Rome moderne n'est pas simplement un choix entre la puissance papale et les États-Unis, c'est l'épreuve finale pour les 144 000. C'est une épreuve prophétique et bien comprise, elle englobe toute représentation du processus d'épreuve finale exposé dans le témoignage prophétique sanctifié de Dieu. Le processus de mise à l'épreuve à l'époque de Jean-Baptiste et du Christ provenait du livre de Daniel, tout comme le processus de mise à l'épreuve au temps des Millérites. En tant qu'épreuve prophétique, la méthodologie selon laquelle la vérité est établie est tout aussi essentielle. Pour que les candidats l'appliquent correctement, que le simple fait d'adhérer à la bonne compréhension de qui est la Rome moderne, qu'il s'agisse de l'identification correcte de la Rome moderne ou de l'application de la méthodologie correcte, les deux éléments de l'épreuve sont présentés dans le livre de Daniel. Au premier chapitre de Daniel, Daniel a traversé un processus de mise à l'épreuve en trois étapes, commençant par l'alimentation, puis une épreuve visuelle, suivie d'une épreuve accomplie par Nabucodonosor, symbole biblique du roi du Nord, la puissance papale des derniers jours.
Quant à ces quatre jeunes gens, Dieu leur accorda de la science et de l'habileté en toutes sortes d'instructions et de sagesse. Et Daniel avait l'intelligence de toutes les visions et des songes. Au terme des jours que le roi avait fixés pour les faire venir, le chef des eunuques les introduisit devant Nabucodonosor. Le roi s'entretint avec eux, Et, parmi eux tous, on n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils se tinrent devant le roi. Et pour toutes les questions de sagesse et d'intelligence que le roi leur posa, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui se trouvaient dans tout son royaume. Daniel 1:17 va.
À la fin des jours, ce qui correspond prophétiquement au dernier jour où les 144 000 sont mis à l'épreuve. Daniel et les 3 hommes de valeur furent trouvés 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et Daniel avait l'intelligence de toutes les visions et de tous les songes. Daniel représente les 144 000 qui, dans les derniers jours, comprennent l'accroissement de la connaissance survenue lorsque le Christ, en tant que lion de la tribu de Juda, a décelé cette portion du livre de Daniel qui concernait les derniers jours, en 1989. Daniel ne se contentait pas de comprendre davantage que les autres au sujet des songes et des visions, il avait l'intelligence de toutes les visions et de tous les songes. Il représente ceux qui emploient la méthodologie ligne sur ligne, car cette méthodologie rassemble toutes les visions et tous les songes en un seul message cohérent. Le message qui réunit tous les songes et toutes les visions en une seule ligne prophétique identifie les événements liés à la fin du temps de probation. Ce message est établi par le symbole prophétique qu'est la Rome moderne, la puissance qui s'exalte, dépouille le peuple de Dieu et tombe. Ce pouvoir ne peut être établi qu'en appliquant la méthodologie correcte. La plupart de ceux qui prétendent étudier la Bible rejettent la méthodologie de ligne sur ligne, et certains qui prétendent l'employer en appliquent mal les règles qui composent la méthodologie de ligne sur ligne. Ces règles ont d'abord été rendues publiques par les Millérites, et le peuple de Dieu des derniers jours a été averti que ceux qui sont réellement les messagers du troisième ange utiliseront les règles d'interprétation prophétique de William Miller.
Ceux qui sont engagés dans l'annonce du message du troisième ange étudient les Écritures selon la même méthode adoptée par le père Miller. Review and Herald, 25 novembre 1884.
William Miller represented the Debu du message des trois anges de l'Apocalypse Caltour, and il fut typifié par John Baptiste, qui fut le common small Jew message dont Christ fut le Bouddhisme. Sir White met directement en parallèle le processus de mise à l'épreuve de John Baptiste jusqu'à Christ avec le processus de mise à l'épreuve des trois anges autostatés. John commence le message, et ce ne fut que juste avant la croix, lorsque Christ avait conduit ses disciples à Césarée de Philippe, que Jésus ajouta alors les détailleurs du message dont John avait commencé. La première, le common small, vérité que j'ai à Gédaïs d'Ienidaïs, l'auxilius viduit Christ, consiste à identifier Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Jean 1, 28, 30.
Alors commença la période d'épreuve de 3 ans et demi, qui se termina à la croix. Après que Jean eut été assassiné, peu avant la croix, Jésus commença alors à expliquer cette toute première déclaration de Jean Vieftovcourt.
Lorsque Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, en disant « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Matthieu 16, 13, 21.
Césarée de Philippe est le nom qu'avait Panium à l'époque du Christ, et Panium est identifié dans le verset qui suit Daniel 11, 14, où sont introduits les brigands de ton peuple, qui s'élèvent mais tombent. Le message de Jean-Baptiste, inspiré et parfait, était le message du commencement qui représentait le message millérite, lequel avait été établi sur les règles de Miller. Le message du Christ à la fin, s'appuyant sur et développant le message de Jean, préfigurait le message à la fin des trois anges, qui est fondé sur les règles de Miller et sur les détails qui s'ajoutent au message de Miller lorsque la méthodologie de ligne sur ligne parvient à la fin.
Parvenir à une compréhension erronée du symbole qui établit la vision, à savoir le symbole de la Rome moderne, s'apparente à l'attitude de ceux qui, dans l'histoire du Christ, rejetèrent le message de la croix. Il nous est dit que les Juifs qui rejetèrent le message de Jean-Baptiste ne purent tirer profit des enseignements de Jésus, et que l'histoire de ces Juifs qui firent précisément cela représente ceux qui rejetèrent le message du premier ange. Les Millérites identifièrent les pillards de ton peuple, que j'ai ensuite désigné par l'expression « Rome moderne », comme étant la puissance papale. Nous poursuivrons ces considérations dans le prochain article.